Denis Charbit est en ligne avec nous à présent en Israël. Denis Charbit, bonsoir. Vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université ouverte d'Israël. Bonsoir.
Bonsoir, Bernard.
Denis Charbit, on a déjà posé la question qui inquiète. Est-ce que la situation est en train de devenir hors de contrôle dans les territoires? On vient d'entendre notre correspondante à Jérusalem qui, pour la deuxième fois, deux jours de suite, donne des informations qui sont très préoccupantes. Donc là, aujourd'hui, il y a un Israélien qui a tenté d'écraser un soldat de Tsahal. Faut quand même... Souvenez-vous, Denis, on disait ça tout à l'heure avec Miri. Quand, il y a 20 ans, un habitant des territoires, un juif habitant des territoires, jetait une pierre sur un soldat de Tsahal, ça passait dans le journal. On disait qu'il lui a jeté une pierre. Là, maintenant, il a essayé de l'écraser avec une voiture. Est-ce que vous avez l'impression que c'est sorti de la boîte de Pandore, quoi. Voilà, fallait pas ouvrir cette boîte. Et il y a quelque chose de nouveau qui est parti dans les territoires qui s'appelle ou la confrontation ou le chaos.
Alors c'est vrai que la situation est préoccupante. D'abord, elle est préoccupante, il faut le dire, il faut le rappeler, parce que depuis, on va dire, bientôt un an en fait, hein, mars-avril 2022, on est bientôt en mars 2023, eh bien on a un an d'intensification de la lutte palestinienne dans les territoires occupés. Ça a même parfois frappé quelques villes d'Israël, du sanctuaire, mais pour la plupart, c'est effectivement sur les routes de Cisjordanie. Mais effectivement, il y a un deuxième volet, celui que vous évoquez précisément, et qui est celui de la prise en charge par des habitants des colonies, que ce soit une minorité, bien sûr que c'est une minorité, et qu'importe si entre ceux qui y habitent et ceux qui ont fait ce qu'ils ont fait ces jours derniers, il y a connivence, complicité ou au contraire rejet absolu, le fait est qu'on a bien le sentiment qu'il y a désormais presque deux fronts en quelque sorte, hein. Il y a celui de la lutte antiterroriste, hein, contre les Palestiniens qui prennent les armes et qui assassinent et on l'a vu encore très récemment à plusieurs reprises, mais il y a également ce nouveau front. Alors, le paradoxe, c'est quoi? C'est que on aurait pu penser que ce type d'expédition punitive aurait lieu lorsque on perçoit que le gouvernement n'est pas sur la même longueur d'onde.
Or, ne fait rien, ne fait rien. Ma phrase habituelle, c'est « ils font rien ».
Voilà. Or, ça a lieu alors même, il faut bien le comprendre, qu'il y a au sein du gouvernement israélien, non pas simplement des ministres qui comprennent, qui compatissent, mais je dirais leurs représentants, hein, Smotrich, Ben Gvir, Orit Strouk, c'est exactement, leurs représentants au sein même du gouvernement, c'est près d'un quart des ministres. Et ce qui est effectivement dangereux, c'est que, en gros, le discours, c'est lequel? Il consiste à dire... Il y a des choses que l'armée israélienne ne peut pas faire. Elle ne peut pas faire une expédition punitive. Or, qu'est-ce qu'on a dénoncé pendant la campagne électorale et après? C'est l'absence de dissuasion. Voilà, l'armée israélienne n'est plus capable de dissuader. Elle n'est plus capable de faire régner l'ordre. Eh bien, nous allons le faire à sa place. Et il faut bien comprendre que dans l'opinion publique, il y en a qui disent « Ah ben oui, peut-être que finalement, quand ils font ce qu'ils font dans le village de Hawara, ça va dissuader ». C'est-à-dire qu'on est en train, en quelque sorte, de propulser des vandales, hein, au statut de armée supplétive, en quelque sorte. Et le problème, quel est-il? Le problème, c'est que, faut bien comprendre, et ça c'est toute la logique, je dirais, de l'occupation qu'on ne peut vraiment pas éviter. C'est-à-dire que, demandez à un soldat israélien, il est en Cisjordanie, pourquoi? Pour protéger l'ensemble de la population? Non! Il est armé, il est équipé, il est entraîné pour protéger la population israélienne. Et qu'est-ce qu'il doit faire lorsqu'on lui dit, mais cette fois-ci, il faut protéger la population palestinienne de la vengeance des colons ou des habitants des implantations? Il va vous dire, mais attendez, mais ça je ne sais pas faire. Et ce n'est pas le simple soldat dont je parle. Je parle du commandant qui est sur place et qui dit, mais comment on fait? Et il est démuni parce qu'il n'est pas entraîné pour cela, bah parce que la situation s'est rarement présentée. Et là, elle a lu en lieu, en grand. Alors certes, avec, il faut le dire quand même, une certaine retenue, mais... Qui nous dit que demain, il n'y aura pas une expédition de ce genre, et cette fois-ci, avec les armes dont ils disposent, ils tueront à 200 francs et à bout portant. Là, ils se sont retenus, ils ont brûlé, ils ont incendié des cimetières de voitures dans Hawara, etc. Et regardez le résultat. Cela a pris plus de 3 à 4 heures, dit-on, avant que l'armée israélienne ne soit en mesure de rétablir l'ordre. Mais c'est énorme. Vous imaginez 3 heures pendant lesquelles les Palestiniens entrent dans une implantation et commencent sans parler de tuer, à brûler tout ce qu'ils trouvent sur leur chemin, etc. C'est absolument inconcevable. Voilà où on en est. Et le pire, c'est quoi? Le pire, c'est que vous avez, ben justement, des ministres, y compris d'ailleurs Benjamin Netanyahu, qui hésitent parce que, ben oui, ils sont ambigus. Netanyahu a bien sûr rappelé dans un petit film qu'il a fait diffuser aussitôt que c'est à l'armée de faire le travail, et que c'est leur rôle et c'est leur métier et c'est leur fonction. Et il a condamné, mais il n'a pas condamné d'ailleurs, il a dit ne prenez pas la loi entre vos mains. Je traduis littéralement l'Olatra Tachok Layadai, qui est l'euphémisme, mais depuis des années, par excellence, pour dire d'une manière à peine voilée, à peine critique, je vous comprends, je vous soutiens, mais voilà, y en a d'autres dont c'est le métier, donc laissez faire l'armée régulière et ne faites pas ce que... C'est le degré zéro, il n'y a pas eu de condamnation de ce qui a été fait. Non, ne prenez pas la loi entre vos mains.
Ça. Alors regardez, Ben Gvir a attendu hier soir pour condamner. C'est-à-dire qu'il a laissé passer de longues, presque deux journées pour réagir. Et comme vous dites, il a fait le service minimum. Mais je vais vous dire, j'ai parlé aujourd'hui avec un cadre de son parti que j'ai eu au téléphone. Il m'a dit, mais on assume, hein. C'est ce qui était prévu. On a mis au pouvoir Ben-Gvir pour ça. Vous savez que la femme de Ben-Gvir, lorsqu'elle a été reçue par le président de l'État pour la cérémonie officielle, pour être félicitée, voilà, Ben-Gvir est ministre. Bon, vous savez le protocole. Elle est venue avec une arme. Hein. Elle est venue avec un revolver dans sa ceinture. Et donc le cadre que j'ai eu aujourd'hui, le cadre politique, m'a dit mais c'est pour ça que les gens ont voté. C'est-à-dire que
même plus loin. Quand
c'est
vous
le plan.
Dites...
Mais il dit pas ça, genre je vais te dire un secret et tu le répètes à personne. Il dit mais on assume, on est venu au pouvoir pour ça.
Bien entendu, je vais vous dire, je vais faire une comparaison assez audacieuse, je le reconnais à l'avance. C'est exactement le type de condamnation que Trump a prononcé après les émeutes du Capitole. C'est-à-dire je vous aime, je vous apprécie, mais voilà, allez rentrez à la maison, vous êtes de bons Américains. C'est exactement. Alors, c'est dit de manière plus explicite lorsqu'on est ministre du parti du sionisme religieux et de forces juives en particulier. Et c'est dit avec, voilà, à peine, je veux dire, même sans exhortation particulière, lorsque ça émane du coup. Or, il faut bien voir au-delà, on va pas faire. Le problème n'est pas un calcul politique, c'est. Qu'est-ce que ça diffuse comme message aux soldats, à l'opinion publique israélienne, et je ne parle même pas de la communauté internationale, c'est-à-dire qu'on va droit vers le chaos. Et ça, je dirais que c'était prévisible. On voyait bien Ben-Gvir qui annonce des tas de mesures, on va faire une opération rempart numéro 2, parce qu'ils n'ont pas la culture politique de l'État, parce qu'ils n'ont pas la culture de hauts fonctionnaires qui ont travaillé pendant longtemps, etc. Non, ils arrivent avec leur idéologie brute de décoffrage et ils tentent de l'imposer et ils le font avec cette complicité. Je ne suis pas en train de dire qu'ils l'ont préparé à l'avance, etc. Mais ils sont là et c'est là justement où le bât blesse. C'est que vous avez dans ce gouvernement des voix qui les soutiennent discrètement. Une personne a écrit sur son Twitter « Il faut effacer Hawara ». Et que vous comprenez, cette personne-là, c'est pas un fanatique, il n'est pas sorti n'importe quoi. Il est député. Dans le directoire du Keren Kayemet Israël. Il dit « Il faut effacer Hawara de la carte ». Le ministre des Finances fait un like. Alors, bien sûr, quelques minutes après les critiques, ils l'effacent, mais voilà où on en est. Voilà qui nous avons à la tête de l'État d'Israël. Si on n'y met pas un peu de prudence, si on n'y met pas un holà, et bien entendu que Netanyahou est incapable de dresser un blâme, un avertissement, mais parce que politiquement, il dépend d'en deux. Voilà dans quelle situation, et là, indépendamment de gauche, droite, centre, voilà dans quelle situation politique complexe nous nous trouvons aujourd'hui.
Denis Charbit, je vous remercie. Vous intervenez en direct de Jérusalem, vous qui êtes professeur de sciences politiques à l'Université ouverte d'Israël. Merci à vous et bonsoir.
Bonsoir.